Voilà, donc nous allons continuer notre parcours, si vous voulez bien. Alors, je vais sortir d'autres outils de ma boîte à outils. Ça, c'est l'image pour les hommes. Pour les femmes, on va ouvrir d'autres voiles pour nous laisser envelopper. Quoique aujourd'hui, on n'a plus le droit de dire que les hommes et les femmes sont différents, il faut se méfier. Bon. Alors donc, mon propos, c'est de vous présenter une liste de points, de 8 points, qui sont des attitudes ou des choses à mettre en place dans notre vie, hein, qui sont importantes dans la mesure où elles nous aident à être vraiment ouverts, hein, disponibles donc au travail de la grâce de Dieu. Et je vous rappelais ce matin combien c'est important. Oui. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors donc, les deux choses qu'on a vues ce matin, c'était la prière, hein, et puis on a vu la confiance aussi. Le troisième point, c'est l'humilité. Hein, l'humilité. On a entendu cette parole dans l'évangile aujourd'hui à propos du pharisien et du publicain, hein, où Jésus nous dit « Celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse, hein, sera élevé. » Oui, celui qui se reconnaît petit, pauvre, pécheur, hein, devant Dieu, eh bien, sera élevé. Je voudrais vous... Alors, c'est un point très important, et je crois, vous voyez, que l'humilité a un pouvoir extraordinaire pour attirer la grâce de Dieu. Hein, il y a vraiment un mystère très beau là-dedans. Hein, ça paraît un peu peut-être négatif au départ par rapport à nos... habitudes de penser, où on pense tout le temps en termes de richesse, de puissance, de succès, etc. C'est tout le mystère de la pauvreté en esprit qu'on est en train de toucher là un petit peu, mais c'est extrêmement important. Et comprendre combien l'humilité attire la grâce de Dieu, je pense que ça fait partie des clés de la vie chrétienne. Et l'humilité, c'est une clé qui ouvre beaucoup de portes. Il y a parfois des situations où on a l'impression qu'on est coincé, qu'on est fermé, mais avec un petit peu d'humilité, on arrive à trouver des portes ouvertes. Il y a une image de Sade qu'utilise Saint Thérèse de l'Enfant Jésus. Une fois, dans la rue où elle habitait, il y avait un gros cheval avec une charrette derrière qui bloquait l'entrée d'une maison. Alors évidemment, personne ne pouvait entrer, sauf les petits-enfants qui passaient entre les pattes du cheval. Eux, ils réussissaient à entrer. Oui, quand on est tout petit, on passe partout. Il n'y a pas de situation où on ne trouve pas une manière de la vivre et d'avancer quand on est un tout petit. Le royaume de Dieu appartient aux enfants, appartient aux petits. Il faut nous le rappeler. Et puis vous savez que le pape insiste beaucoup là-dessus. Une église pauvre pour les pauvres. Il ne s'agit pas de pauvreté, de misère matérielle ou morale, mais il s'agit de pauvreté en esprit, bien entendu, de véritable humilité. Alors on va commencer par un texte de l'Écriture, hein, dans la lettre la première lettre de Saint Pierre, au chapitre 5, verset 5. Donc il y a Pierre fait une exhortation à différentes catégories de fidèles, comme dans la plupart des épîtres, et puis là il s'adresse aux jeunes. Mais comme on est tous jeunes, ça nous concerne. Donc, voilà ce que dit Pierre. Hein, pareillement les jeunes, soyez soumis aux anciens. Donc ça vaut pour les jeunes, mais après ce qu'il dit vaut pour tout le monde, hein. Enfin, on a tous une vie, une certaine soumission, hein, j'en parlerai après, ce sera le point suivant, hein, l'obéissance. Donc voilà les paroles de Pierre, hein. Revêtez-vous tous d'humilité, revêtez-vous d'humilité dans vos rapports mutuels, hein, les uns envers les autres, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais c'est aux humbles qu'il donne sa grâce. Voilà, on rejoint notre sujet. Oui, Dieu résiste aux orgueilleux, mais aux humbles, il accorde sa grâce. Il accorde son esprit. C'est une citation de l'Ancien Testament qu'on trouve aussi dans une lettre de Saint Pierre. Elle est citée exactement de la même manière, de Saint Jacques. Pierre continue. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, pour qu'il vous élève au bon moment. » Oui, faites-vous tout petit, hein, sous la main puissante de Dieu, et il vous élèvera au bon moment. De toute votre inquiétude, déchargez-vous sur lui, car il a soin de vous. Donc là, c'est une invitation à la confiance. Oui, de toute inquiétude, déchargez-vous sur Dieu. Hein, il aura soin de vous. Hein. Donc, vous avez une double invitation à la confiance et puis à l'humilité. Hein. Et donc, cette idée simple, mais très, très importante et extrêmement juste, hein, que Dieu accorde sa grâce aux humbles, hein, alors qu'il la refuse aux orgueilleux. Je dirais, d'un point de vue humain, c'est vrai déjà. Vous voyez, quand on est, je veux dire, en quelques mots, combien l'humilité est une attitude d'ouverture, de réceptivité. Quand on est orgueilleux, on est autosuffisant. Hein, on sait tout, on n'a besoin de personne, donc finalement, on ne reçoit rien de personne. Hein, parce que de toute façon, on n'en a pas besoin. Quand on est orgueilleux, on ne reçoit aucune critique, on ne reçoit aucune remarque. On est blindé finalement à un certain niveau. Alors que quand on est humble, on est réceptif. Si quelqu'un veut m'aider, ben je l'accepte. Si quelqu'un me fait une remarque, ou même un petit reproche, parfois, ben je l'accepte. Et donc, on est réceptif quand on est humble. Il y a une ouverture au réel dans l'humilité. Et on accepte le réel tel qu'il est, au lieu de juger tout de notre hauteur, de notre orgueil, et puis finalement de se couper du réel, de se couper de Dieu et de se couper des autres. L'orgueil est une attitude de fermeture, d'isolement sur soi, vous voyez. Alors qu'au contraire, l'humilité est une attitude d'ouverture et donc d'accueil qui permet l'amour. Donc c'est vrai au niveau humain et c'est encore plus vrai au niveau spirituel. Et c'est extrêmement important, extrêmement important. Je dirais même que nous devons rendre grâce à Dieu pour tout ce qui nous humilie. Nous devons nous réjouir d'être parfois fragiles, pauvres, d'avoir parfois le nez par terre. Nous devons nous réjouir. Tout ce qui nous rend humbles, c'est un cadeau immense. Alors on ne se le perçoit pas tout de suite, mais enfin, c'est ce que disent tous les saints et c'est ce que dit l'Écriture. Je vous lirai quelques phrases tout à l'heure. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est que l'humilité ? Il y a beaucoup d'aspects. Alors, je voudrais évoquer trois aspects dans l'humilité. Il y a un premier aspect qui, je dirais, par rapport à tout ce qui est beau, bon, positif dans notre vie, qu'il faut reconnaître, mes qualités, mes réussites, le bien que je fais. L'humilité, c'est la vérité. C'est pas de faire semblant, d'être complètement nul pour s'attirer, au contraire, d'autres louanges, comme on fait parfois, vous voyez. Je dirais que l'humilité, c'est reconnaître que tout ce que nous avons reçu est un don de Dieu. Tout le bien que nous accomplissons, par exemple, est un don de Dieu, un don de sa miséricorde. Et donc, ne pas nous attribuer à nous-mêmes le bien dont nous sommes capables. Oui, Paul, on trouve cette phrase dans une lettre de Paul qui dit à quelqu'un, pourquoi juger ton frère ? Pourquoi juger ton frère ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? J'ai pas le droit de juger les autres à cause de mes qualités en me croyant supérieur aux autres, parce que tout ce que j'ai, je l'ai reçu. Bon, bien sûr, vous direz, je me suis fatigué, j'ai travaillé, d'accord, mais la capacité de travailler, tu l'as reçu de Dieu aussi. Donc en fin de compte, tout est grâce. Tout est don de Dieu. Je vous lis une phrase de Thérèse de l'Enfant Jésus qui exprime ça de manière simple, mais très belle. Donc c'est à la fin de la vie de Thérèse, il y a ce qu'on appelle les derniers entretiens qui sont des... Donc Thérèse était très malade, elle ne pouvait plus écrire, et donc ses sœurs la visitaient souvent, et puis il y a eu des dialogues qui ont été rapportés, donc il y a des choses très très belles, il y a vraiment des perles. Et donc à un moment, une des questions qui a été posée à la petite Thérèse, c'est qu'est-ce que c'est qu'être petit ? Parce qu'elle en parle souvent, qu'est-ce que c'est qu'être petit ? C'est une des clés de la vie spirituelle pour elle. Comment ? Être petit, qu'est-ce que c'est ? Alors, elle donne un certain nombre de choses, je ne vais pas citer tout le texte, mais un des points sur lesquels Thérèse parle, c'est notre sujet. Être petit, c'est ne point s'attribuer à soi-même les vertus qu'on pratique, se croyant capable de quelque chose, mais reconnaître que le bon Dieu pose ce trésor dans la main de son petit enfant, pour qu'il s'en serve quand il en a besoin. Mais c'est toujours le trésor du bon Dieu. Oui, la vertu que nous pratiquons, le bien que nous accomplissons, il faut le reconnaître, mais il ne faut pas nous croire plus malin que les autres à cause de ça. Il faut avec humilité donc le reconnaître comme un don de Dieu, un don de sa miséricorde. Reconnaître que le bon Dieu pose ce trésor dans la main de son petit enfant pour qu'il s'en serve quand il en a besoin, mais c'est le trésor du bon Dieu. Mais j'ai pas le droit de m'approprier, de me considérer comme propriétaire et auteur du bien que j'accomplis. Et parce que c'est pas la vérité, tout simplement. Tout est grâce, tout est don de la miséricorde de Dieu. Alors ça passe à travers notre liberté, nos efforts, d'accord, mais n'empêche que c'est la vérité. Et vous voyez qu'il y a un lien très très beau, en fait, entre l'humilité et puis la reconnaissance. Oui, quand on est humble, on considère qu'on ne mérite rien, qu'on est digne de rien, ce qui veut dire qu'on reçoit tout comme un cadeau. Oui, le bien que j'accomplis, telle ou telle réussite dans tel ou tel domaine, bon, j'en suis heureux, hein, je m'en réjouis, et ça c'est tout à fait légitime. Mais je m'en réjouis comme d'un don de Dieu, comme d'un cadeau de sa grâce. Et donc, mon attitude spontanée, c'est la reconnaissance. C'est pas de dire, là, qu'est-ce que je suis bon, je suis bien mieux que les autres. Mais c'est, ce qui est donc, évidemment, l'attitude d'orgueil, mais c'est la reconnaissance. Mais je te rends grâce, Seigneur, d'avoir reçu tel talent, telle capacité. Je te rends grâce d'avoir pu pratiquer tel bien, telle vertu. C'est un cadeau que tu m'as fait. Je suis infiniment reconnaissant. Mais je ne me crois pas meilleur que les autres. Parce que c'est ça nos défauts, vous voyez, parfois, on est très compliqués, nous, les êtres humains. Oui. Quand on fait le mal, on se décourage très vite. Quand on fait des bêtises, on se décourage tout de suite. Puis quand on fait un tout petit peu de bien, on se croit tout de suite meilleur que les autres. Seigneur, je te rends grâce comme le publicain, le pharisien. Je te rends grâce de ne pas être comme les autres. Je ne suis pas comme ce pécheur de publicain que je méprise. Je jeûne, je fais ceci, je fais cela. Et très souvent, c'est ça notre problème, c'est que quand on fait un petit peu de bêtises, on se décourage. Et quand on fait un petit peu de bien, tout de suite, on s'en sert pour gonfler notre ego. Oui, et puis pour se croire un peu au-dessus de la masse des pécheurs et pour les juger de haut. Pour les mépriser, donc le mépris qui est une des expressions les plus tristes mais les plus communes de l'orgueil. On n'a pas le droit de mépriser qui que ce soit. De quel droit? Tout ce que j'ai, je l'ai reçu. Je ne peux que remercier Dieu. Je n'ai pas le droit de monter sur un piédestal et de juger tout le monde parce que j'ai réussi à faire telle ou telle bonne œuvre ou telle ou telle bonne action. Oui, donc plus on est humble, plus on est reconnaissant et plus on est joyeux. Et parce qu'on reçoit tout comme un cadeau, non pas comme un dû ou comme un mérite, mais on reçoit tout comme un don, comme un cadeau. Et la vie est bien plus belle. Oui, l'humilité conduit à la reconnaissance. Et inversement, un des moyens les plus puissants pour grandir dans l'humilité, c'est pas de penser beaucoup de mal de soi-même, parce que ça, c'est pas la vraie humilité, c'est un orgueil caché. Un des moyens les plus puissants pour grandir dans l'humilité, c'est la reconnaissance. Oui, apprendre à dire merci pour toute chose. Parce que chaque fois que je dis merci à Dieu pour une belle chose que j'ai vécue, eh bien je reconnais que Dieu est la source. Et au lieu de me glorifier, je glorifie Dieu. Et plus on est reconnaissant, plus on devient humble. Et en même temps, plus on est humble, plus on est reconnaissant. Je reviendrai un peu sur la gratitude, parce que c'est une attitude spirituelle extrêmement importante. Mais au passage, oui, il y a ce très très beau lien entre humilité et reconnaissance. Ce qui montre que l'humilité est source de joie, oui. La vraie humilité conduit à la joie, pas du tout à la tristesse ou à je ne sais pas quoi, au contraire. Donc ça, c'est un premier aspect de l'humilité, vous voyez. Alors c'est vrai que le problème qu'il y a derrière, oui, pourquoi on s'approprie les dons de Dieu, pourquoi on se glorifie facilement soi-même, c'est parce qu'il y a en nous un terrible besoin psychologique qui est un besoin de reconnaissance. Oui, j'ai besoin d'exister à mes yeux des autres, j'ai besoin de sentir que ma vie a un prix, une valeur. Bon, c'est un besoin psychologique légitime. Mais la manière de satisfaire ce besoin n'est pas légitime. Quand je gonfle mon ego et que je me crois meilleur que les autres, la manière légitime de satisfaire ce besoin de reconnaissance, eh bien, c'est de reconnaître que je suis enfant de Dieu et que Dieu m'aime comme un père aime son enfant et que ma vie a du prix, non pas à cause de mes propres mérites, mais ma vie a du prix à cause de l'amour que Dieu ne cesse de me donner, que l'amour que Dieu a envers moi et qui me fait être enfant de Dieu, oui, dans la grâce de mon identité, de ma filiation. Oui. Donc, oui, et là encore que notre vraie identité, vous voyez. Puis on a tous un terrible besoin d'identité. Puis on est prêt à faire n'importe quoi pour se donner une identité vis-à-vis des autres, même à se mettre les pires tatouages, les pires trucs, comme aujourd'hui. Vous voyez, mais alors ce besoin d'identité est légitime, seulement notre véritable identité, c'est pas celle que nous fabriquons artificiellement, en voulant être la personne parfaite, etc. Puis on s'épuise. Mais la vraie identité, c'est nous recevoir nous-mêmes des mains de Dieu, oui. Découvrir l'enfant de Dieu que je suis et l'amour unique que Dieu a pour moi. Là, on trouve sa vraie identité. Et non pas dans une espèce d'auto-glorification épuisante, oui, absolument épuisante. Je veux être absolument parfait. Oui. Et, bon. Enfin, il y aura beaucoup à dire là-dessus, mais. Et donc ça, c'est un premier aspect de l'humilité. Hein. Oui. Ne rien s'attribuer, mais tout reconnaître hein, comme don de Dieu, comme don de sa miséricorde. Et puis on est bien plus libre hein, quand c'est comme ça. Alors, on n'a plus à se fatiguer pour se fabriquer un ego, la force du poignet, vous voyez. Alors un deuxième aspect de l'humilité qui est extrêmement important aussi, je dirais, c'est se reconnaître pauvre, hein, limité, fragile, pécheur parfois. C'est reconnaître la vérité de ce que nous sommes, oui, nos limites, nos fragilités humaines, nos erreurs, hein, les reconnaître hein, au lieu de hein, tout le temps se justifier ou se le cacher à soi-même. Ou, bon. Donc c'est se reconnaître pauvre, mais ce qui est encore plus difficile, c'est de s'accepter pauvre. Vous voyez, c'est pas forcément toujours un grand problème, vous voyez, parce qu'il y a des moments où on est content de soi. Bon, je dirais que c'est pas un problème dramatique hein, que de s'accepter pauvre. Parfois, ça peut être très très difficile. Hein, face à certaines erreurs, à certains échecs, à certaines fragilités affectives ou autres, vous voyez, ou dans des temps plus difficiles, s'accepter soi-même est parfois extrêmement difficile. Et moi, en tant que prêtre, je peux vous dire que j'ai entendu des milliers de personnes me déballer un peu leur souffrance, oui, ce qui est très beau en même temps. Et combien de fois j'ai entendu des personnes me dire « Père, je n'arrive pas à m'accepter tel que je suis. Je ne me supporte pas comme je suis. Je suis trop ceci, trop cela, ou pas assez ceci, pas assez cela. Et je n'arrive pas à m'aimer moi-même. Oui. Je n'arrive pas à m'accepter comme je suis. » Et c'est un problème extrêmement courant, oui. Et surtout aujourd'hui, de plus en plus même. Parce que plus l'homme se sépare de Dieu, moins il arrive à s'aimer lui-même. Oui. Ça, c'est extrêmement net. Hein. Je pourrais vous donner des tas de... Oui. Et donc aujourd'hui, rares sont les gens qui peuvent dire « Je suis heureux d'être qui je suis. » Oui, je suis profondément heureux d'être qui je suis. Je suis faible, fragile, tout petit. Je fais mille bêtises, mais ça fait rien. Je suis heureux d'être qui je suis. Et c'est ça la vraie humilité, m'accepter tel que je suis, hein, sous le regard de Dieu. Parce que Dieu m'aime tel que je suis. Hein, Dieu est mon Père. Je suis son petit enfant, bien fragile, bien imparfait, mais aimé de Dieu. Hein, et c'est ça qui compte. C'est pas de me regarder de nombril, hein, mais c'est de croire à l'amour que Dieu me porte. Hein, et donc d'être en paix avec moi-même, parce que Dieu m'aime tel que je suis, mais dans mes limites et ma pauvreté. Oui, oui, s'accepter soi-même, c'est un acte de foi. Souvent, il faut un travail psychologique, et aujourd'hui, 95% du travail des psychologues, c'est d'aider les personnes à retrouver l'estime d'elles-mêmes. Enfin, je ne suis pas psy, il y en a peut-être parmi vous, mais je crois que peut-être que le pourcentage n'est pas tout à fait exact, mais je ne suis pas loin du vrai pourcentage. L'estime de soi, c'est un gros problème aujourd'hui. Parce qu'on est une société tellement compétitive, tellement exigeante, vous voyez, que la moindre faiblesse disqualifie la personne. Vous voyez. Le moindre échec te disqualifie. Autrefois, quand on ratait le bac, c'était pas un drame. J'ai raté le bac, ben, ma foi, je ferai un autre métier, et puis c'est tout. Aujourd'hui, quand un gosse rate le bac, c'est toute la famille qui entre en dépression. Hein. Enfin, je caricature, mais c'est pas loin, parfois. Oui. Vous voyez, donc, accepter ses propres limites. Donc parfois on les voit pas trop, donc ça pose pas de problème. Mais quand on commence à les voir sérieusement, ça peut être difficile. Oui. Et ça demande beaucoup de foi que de s'accepter soi-même. Alors parfois il y a un travail humain qui est nécessaire aussi. Donc les psychologues font parfois du bon travail, mais je pense que le problème de fond, c'est pas un problème de psychologie, l'acceptation de soi, c'est un problème de foi. Oui. Croire à la grâce qui repose sur moi, que même si je suis fragile, limité, imparfait, que je traîne mes pauvretés, mes handicaps, il y a une grâce infinie qui repose sur moi, une beauté infinie qui repose sur moi, qui est l'amour que Dieu me porte, hein, qui est absolument infini. Je te rends grâce pour la merveille que je suis. C'est ça la vraie humilité. Oui, oui, donc dans la vraie humilité, il y a une grâce de réconciliation avec sa faiblesse. Oui, me reconnaître pauvre, mais m'accepter pauvre, paisiblement. Et pourquoi j'accepte ma pauvreté? Parce que je fais confiance à Dieu. Parce que mon espérance, mon salut, c'est pas moi-même. Mais mon espérance est en Dieu. Ma confiance est en Dieu. Donc j'accepte mes limitations et mes fragilités. J'en fais pas un drame. Et c'est pas si facile que ça, parce qu'il y en a beaucoup d'orgueil. On voudrait tellement être parfaite, meilleure que les autres. Il y a en nous beaucoup d'orgueil, puis aussi en nous beaucoup de peur. Oui. La peur de ne pas être aimé. Cette idée que tant que je ne serai pas parfait, je ne serai pas aimé, accepté par les autres, qui est une idée stupide. Oui. Parce que si tu t'acceptes toi-même, dans ta pauvreté, les autres aussi t'accepteront et t'aimeront. Le problème, ce n'est pas la faiblesse, c'est la non-acceptation de la faiblesse. C'est ça le problème. Oui. Et donc, vous voyez, cette grâce un peu d'humilité, d'acceptation de soi, de réconciliation avec sa faiblesse, elle est importante parce que si je m'accepte moi-même, je pourrai aussi mieux accepter les autres. Et parfois, vous voyez, on n'arrive pas à accepter les pauvretés des autres parce qu'on n'accepte pas les siennes. Ça, on l'a tous vécu, oui, moi le premier, vous voyez. Parfois, j'avais fait une bêtise ou une erreur, une mauvaise décision, ou bien j'étais tombé dans un péché qui m'humiliait profondément, et du coup, je suis fâché contre moi-même, vous voyez. Et comme je suis fâché contre moi-même, bah, après ça, je suis fâché contre tout le monde. Je suis de mauvaise humeur parce que j'accepte pas mon erreur, mon échec ou ma bêtise, je l'accepte pas. Donc je suis de mauvais poil. Qu'est-ce que ça veut dire en bon français? Ça veut dire que je fais payer aux autres la difficulté que j'ai à m'accepter pauvre. Vous voyez, c'est automatique. Quelqu'un qui n'accepte pas sa faiblesse, il le fait payer aux autres. Et donc ça crée des problèmes dans les relations, évidemment. 95% des conflits qu'on a avec les autres sont en fait des conflits qu'on a avec soi-même et qu'on reporte sur les autres. Et au contraire, plus je m'accepte petit et pauvre, plus je suis en paix avec moi-même, dans cette vraie humilité, plus j'accueille aussi les autres. Et puis je m'accueille moi-même. Et encore, c'est une réceptivité. Oui, l'humilité est une réceptivité. Je m'accueille tel que je suis. J'accueille l'amour que Dieu a pour moi. J'accueille l'autre dans sa faiblesse aussi. Mais tout ça, ça va ensemble. Oui, parce que si je m'accepte moi-même, eh bien j'accepte aussi l'amour que Dieu me porte. Si je ne m'accepte pas tel que je suis, eh bien, je n'accepte pas l'amour que Dieu a pour moi. Parce que Dieu m'aime tel que je suis. Non pas tel que je rêve d'être, non pas tel que je voudrais être ou tel que je devrais être, mais Dieu m'aime tel que je suis. Et si je m'accepte tel que je suis, eh bien, j'accueille aussi l'amour que Dieu me porte. Je suis réceptif à la grâce, au Saint-Esprit. Je me laisse aimer. Ça, c'est extrêmement important. Alors c'est vrai qu'il y a un équilibre qui est un petit peu délicat parfois, parce que il faut pas non plus que l'acceptation de soi, de ses limites, devienne une paresse, où on fait plus rien pour s'améliorer, on fait plus rien pour se convertir. Ça, c'est pas juste. Donc vous voyez, il faut qu'on ait la double attitude, à la fois un vrai désir de conversion, un vrai désir de changement, un vrai désir de progrès au niveau humain, spirituel, mais sur la base d'une acceptation de soi. Je veux être saint, je veux grandir, je veux pratiquer la vertu, mais en même temps, je me décourage jamais, parce que je m'accepte dans mes limites, parce que je fais confiance à Dieu. Thérèse a dit, les petits-enfants, être petit, c'est aussi ne jamais se décourager. Parce que les petits-enfants tombent souvent, mais ils ne se font pas de mal. Parce qu'ils ne tombent pas de haut. Et quand on est humble et qu'on tombe, on se fait pas mal. On accepte. C'est tout. Puis on se jette dans les bras du bon Dieu comme le gamin de ce matin pour recevoir miséricorde et un baiser d'amour. Vous voyez, puis voilà. On fait pas un drame de nos erreurs, de nos. On croit pas que le monde s'est effondré parce que moi j'ai fait une bêtise ou une erreur dans quelque domaine que ce soit. Oui. Le problème d'un monde sans Dieu, oui, c'est qu'un monde sans Dieu, l'homme a cru se libérer en mettant Dieu à la poubelle. Mais un monde sans Dieu, c'est un monde sans miséricorde, un monde sans rémission. C'est un monde où le péché n'est plus pardonnable. Il n'y a plus personne pour pardonner. Il vaut mieux avoir le bon Dieu, parce qu'on a tellement besoin de miséricorde. Et... Oui, donc, je crois que nous devons, ça paraît contradictoire, mais ça ne l'est pas, avoir à la fois les deux attitudes. Oui, un grand désir de progrès, de conversion, de sainteté. Comme dit la petite Thérèse, je ne veux pas être sainte à moitié. Je ne veux pas être chrétien à moitié. Donc, je veux grandir, je veux me convertir. Si on ne le veut pas, on ne le fera pas. Mais en même temps, une douceur envers soi-même, une grande humilité. Je ne me découragerai jamais. Quelles que soient les fautes, les bêtises que je fasse, jamais je ne me découragerai. Je m'accepterai pauvre. Et je mettrai toute mon espérance dans la miséricorde de Dieu. Il faut les deux attitudes en même temps. C'est ça la justesse évangélique. Alors, je voudrais vous lire une phrase de Thérèse de Lisieux. Je prends quelqu'un qui est docteur de l'Église, comme ça je suis tranquille. On ne pourra pas me reprocher que c'est de la mauvaise théologie. Donc c'est des phrases de Thérèse qui sont dans une lettre, la lettre 197, qu'elle a écrite à une de ses sœurs, et sœur Marie du Sacré-Cœur, qui est aussi sa marraine. Et alors je ne donne pas le contexte pour ne pas être trop long, mais même si ce serait intéressant. Enfin, je dirais en deux mots, en simplifiant un peu trop, mais que cette sœur de Thérèse se décourageait un petit peu. Parce qu'elle se comparait à Thérèse, qu'elle trouvait pleine d'enthousiasme, de désir, puis elle se trouvait un peu nulle à côté. Hein, parce qu'elle n'avait pas les mêmes. Enfin, Thérèse lui avait partagé un grand désir du martyr qu'elle avait. Hein, et la brave sœur a répondu à Thérèse un petit mot, c'est magnifique ce que tu dis, mais toi, ce que tu désires, moi, j'en ai peur. Et puis, donc, elle se sentait un petit peu nulle à côté de Thérèse, qui lui paraissait très enflammée d'amour. Bon. Et ce qui est très beau, c'est la manière dont Thérèse lui répond. Alors elle lui dit, oui, que ces grands désirs que je t'exprimais, c'est un cadeau que Dieu me fait parce que je suis faible, pour m'encourager. Mais c'est pas là-dedans que je mets ma confiance. C'est pas dans ce que je pratique que je mets ma confiance. C'est pas ça qui plaît à Dieu dans mon âme. C'est le terme qu'utilise Thérèse. Ces grands désirs donc qu'elle lui a exprimés à un certain moment, qu'elle avait vécu pendant une retraite. Donc voilà ce que dit Thérèse. Je sens bien que ce n'est pas du tout cela qui plaît au bon Dieu dans ma petite âme. Donc ces désirs enflammés qu'elle a eu parfois. Ce qui lui plaît, ce qui plaît à Dieu, ce qui attire la grâce de Dieu, autrement dit, ce qui plaît à Dieu dans ce qui lui plaît, c'est de me voir aimer ma petitesse et ma pauvreté. Et c'est l'espérance aveugle que j'ai en sa miséricorde. Voilà mon seul trésor. Ma reine chérie, pourquoi ce trésor ne serait-il pas le vôtre? Et mon seul trésor, c'est deux choses. L'humilité, me voir aimer ma petitesse et ma pauvreté. Et non seulement accepter, mais aimer. Aimer ma petitesse et ma pauvreté. Et là, on a du mal. Alors, il ne s'agit pas d'un amour romantique, mais il s'agit d'une acceptation profonde. Oui, reconnaître que ma pauvreté est un bien. Mes fragilités sont un bien, parce qu'elles m'obligent à dépendre de Dieu, oui, à tout recevoir gratuitement de son amour. Et puis ça déracine l'orgueil, qui est le plus grand obstacle dans la vie spirituelle. C'est le pire de tout. Oui, ce qui plaît à Dieu dans ma petite âme, c'est de me voir aimer ma petitesse et ma pauvreté. C'est l'espérance aveugle que j'ai en sa miséricorde. Oui, une totale confiance, et puis c'est une grande humilité. Comme acceptation de soi et amour de sa propre pauvreté. Et un peu plus loin, donc elle dit la chose suivante. Il faut consentir à rester pauvre et sans force. Oui, on voudrait tout le temps être costaud, être super brillant. Vous voyez. Ben non. Bon, quand on l'est, tant mieux. Il ne s'agit pas de. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Parfois, on est bien pauvre, bien faible. Il faut consentir à rester pauvre et sans force. Et voilà le difficile. Car, citation, « le pauvre d'esprit, où le trouver? Il faut le chercher bien loin, a dit le psalmiste. » Il ne dit pas qu'il faut le chercher parmi les grandes âmes, mais bien loin, c'est-à-dire dans la bassesse, dans le néant. Ah, restons donc bien loin de tout ce qui brille. Oui, restons bien loin de tout ce qui brille. Ne cherchons pas à briller, aux yeux des autres, aux yeux de qui que ce soit, à quoi ça sert. Restons bien loin de tout ce qui brille. Aimons notre petitesse. Aimons à ne rien sentir. Là, elle fait un peu allusion à sa vie de prière, qui était parfois. Donc elle a eu des moments de grande ferveur, mais souvent dans sa prière, Thérèse ne sentait rien. Oui. Elle avait une grande aridité, mais elle avançait dans la foi et était fidèle. Donc aimons notre petitesse. Aimons à ne rien sentir. Oui, quand on n'a pas d'enthousiasme, qu'on ne sent pas la vertu, bien, acceptons-le. Hein. Confions-nous au Seigneur. Donc, aimons notre petitesse, aimons à ne rien sentir. Alors, ce qui est très très beau, c'est ce qui vient après. Alors, nous serons pauvres d'esprit. nous accepterons pauvres. Alors nous serons pauvres d'esprit et Jésus viendra nous chercher. Si loin que nous soyons, il nous transformera en flamme d'amour. Oui, c'est exactement l'idée qui est au centre de mon enseignement. Oui. Si tu t'acceptes petit, dans cette humilité, cette pauvreté spirituelle, le Seigneur viendra et te transformera en flamme d'amour. Le Saint-Esprit va tomber sur toi. Ton humilité attire la grâce du Saint-Esprit. Et Dieu fera en toi ce que tu ne peux pas faire par tes propres forces. Et te conduira au sommet de l'amour. L'humilité attire la grâce de Dieu. Jésus viendra nous chercher, si loin que nous soyons, si bas peut-être que nous soyons tombés parfois, il nous transformera en flamme d'amour. Oh, que je voudrais pouvoir faire comprendre ce que je sens, c'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Oui, parce que c'est la confiance elle-même qui fonde l'humilité. Oui, je peux m'accepter pauvre parce que ma confiance est en Dieu. Oui, c'est des choses, je dirais, extrêmement simples, mais extrêmement importantes. Et qu'on a du mal à vivre. Oui, parce qu'il y a en nous beaucoup d'orgueil. On voudrait être autosuffisant, n'avoir besoin de personne, être parfait, oui, ne jamais tomber, ne jamais se tromper. On rêve tous d'une espèce d'infaillibilité qui n'a rien de chrétien. Parce que ce dont on rêve, c'est finalement de ne plus avoir besoin de Dieu, de ne plus avoir besoin de miséricorde, de ne plus avoir besoin des autres non plus. Mais ça, c'est le contraire du christianisme, qui est un mystère de communion. Et plus on est humble, plus la communion est possible, plus la communion est profonde avec Dieu, avec l'autre. L'humilité est au fondement de l'amour authentique. Et dans le couple, c'est fondamental. Il y a de vraies humilités qu'entre des personnes humbles qui s'accueillent mutuellement. On est tous les deux des pauvres. On ne se condamne pas, on ne se juge pas, on ne se méprise pas, mais on s'accueille comme des pauvres et on marche ensemble. Alors ça, c'est donc le deuxième aspect de l'humilité. Donc face au positif, c'est bien de le reconnaître comme un don de Dieu. Face au négatif, c'est d'accepter, paisiblement, d'être pauvre et limité et fragile. Puis le troisième aspect de l'humilité, qui est important aussi, je dirais, c'est de s'abaisser par amour. Oui, Jésus qui lave les pieds de ses disciples. Un Dieu qui s'est abaissé, qui s'est humilié, se faisant homme jusqu'à la mort de la croix. Jésus qui se fait si pauvre, si humble dans l'Eucharistie. Oui, imiter ce mouvement de Dieu. Thérèse a dit, le propre de l'amour, c'est de s'abaisser. Oui, nous faire tout petit. Là, c'est plus une humilité volontaire, oui. C'est pas simplement accepter le réel tel qu'il est, que tout est don de Dieu, que par moi je ne suis rien. Ça, c'est simplement reconnaître le réel. Mais là, c'est un petit peu plus. C'est une décision de se faire petit les uns devant les autres. Oui. S'abaisser par amour. Alors, pas évidemment pour des raisons psychologiques un peu tordues où on se fait une carpette sur laquelle tout le monde peut marcher tranquillement. Bon, ça peut être parfois, pour des raisons psychologiques qui ne sont pas tout à fait légitimes. Hein. Il faut être soi-même, il faut s'autoriser à penser ce qu'on pense et à le dire parfois. Bon, il ne s'agit pas de nier sa personne, hein. Mais il s'agit de s'abaisser par amour, de se faire petit par amour les uns devant les autres. Hein. Oui, dans un esprit de service et de Donc ça, c'est très beau aussi parce que là aussi, ça attire la grâce de Dieu. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Donc voilà trois aspects d'humilité. Hein. Mais avec la confiance, c'est la plus importante de toutes les vertus. Et donc, je le répète, l'humilité a un grand pouvoir pour attirer la grâce de Dieu dans notre vie. Alors cette grâce, parfois on la sentira, parfois on la sentira pas. Hein. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est de pratiquer ce dont on est sûr, qui est l'attitude juste. Hein. Et si nous pratiquons l'humilité comme la confiance, eh bien, nous sommes ouverts à la grâce de Dieu. Hein. Et donc quelque chose se passera. Hein. Peut-être pas immédiatement, mais tôt ou tard, nous verrons les fruits du travail de l'Esprit-Saint dans notre cœur. Et donc, comme je disais tout à l'heure, réjouissons-nous de ce qui nous oblige à devenir humbles. Oui. Réjouissons-nous. Oui, et puis, Dieu voudrait nous confier tellement. Surtout aujourd'hui, il y a besoin pour le monde. Mais parfois, ce qui empêche Dieu de nous donner des dons forts, c'est qu'on se les approprie, vous voyez. On se sert au passage. Alors là, évidemment, je vous lis un texte d'une moniale du. Oui, Dieu ne demande, du XVIIe siècle, Catherine de Bar, Dieu ne demande pas mieux que de nous remplir de lui-même et de ses grâces, mais il nous voit si pleines d'orgueil, elle parle à des sœurs, si pleines d'orgueil et si pleines de nous-mêmes, que c'est ce qui l'empêche de se communiquer. Car si une âme n'est fondée dans la véritable humilité, elle est incapable de recevoir les dons de Dieu. Son amour propre les dévorerait. Et c'est ce qui se passe parfois, malheureusement. Oui. Et ça empêche Dieu de nous combler, parce qu'on prend pour nous ce qui est don gratuit de sa grâce. Oui. Son amour propre les dévorerait, et Dieu est obligé de la laisser dans ses pauvretés, dans les ténèbres et stérilités, pour la tenir dans son néant, tant c'est une disposition nécessaire que cette humilité. Et c'est vrai que parfois, pour nous faire acquérir un peu d'humilité, Dieu y va parfois un peu fort. Mais c'est tellement nécessaire qu'il faut l'accepter. Mais quand on l'accepte, ça devient très très doux. Vous voyez ? Et Dieu nous console très très vite. Oui. Quand on entre vraiment dans une démarche d'humilité, on est très vite consolé. On est très vite heureux. Ça donne beaucoup de joie. Alors il y a un moment un peu amer pour l'orgueil, hein, pour l'amour propre, hein, ça c'est clair. Mais en fin de compte, il y a beaucoup de joie et de liberté. Hein, et de bonheur. Ouh là là, le temps passe. Alors, je vais... Le quatrième point que je vais évoquer, alors j'évoque le mot que je vais mettre, c'est le mot obéissance. Alors c'est une question qui est complexe. Oui, je vais partir d'une phrase des Actes des Apôtres, hein, qui dit, c'est Pierre qui dit ça, je ne sais plus très bien où, enfin c'est le acte 5, 32, Dieu donne son Esprit Saint à ceux qui lui obéissent. Dieu donne son Esprit Saint à ceux qui lui obéissent. Donc si nous voulons recevoir la grâce du Saint-Esprit, il y a une certaine dimension d'obéissance qui est nécessaire. Je dirais à un niveau un peu général, c'est que plus je suis décidé à faire la volonté de Dieu, plus je suis décidé à servir Dieu, et bien plus je recevrai la grâce du Saint-Esprit. C'est clair. Si je suis vraiment désireux profondément de plaire à Dieu, de lui obéir, de le servir, de le suivre, eh bien plus il va m'accorder la grâce dont j'ai besoin. Et au contraire, si je n'ai pas beaucoup de désir, si je ne mets pas vraiment Dieu au centre, eh bien je serai moins ouvert à la grâce qu'il désire m'accorder. On a pratiqué l'obéissance de différentes formes. Hein. Il y a une certaine obéissance au commandement de Dieu, de l'Église. Bon. Il y a parfois aussi une obéissance à des responsables, qui est légitime. Alors, bon, c'est une question complexe, hein, parce que je ne veux pas y entrer, parce que on n'a pas beaucoup de temps pour ça. Mais enfin, celui qui prétend obéir à Dieu et qui n'obéit jamais à personne, il y a un petit problème quand même. Et souvent, ce qui nous empêche d'obéir, c'est l'orgueil. Je crois qu'il y a des formes d'obéissance, de soumission mutuelle dans le couple, dans la famille, au travail, dans les communautés religieuses. Donc, il y a des formes d'obéissance qui sont belles. Alors, c'est un truc que le monde ne valorise pas aujourd'hui beaucoup, mais donc obéir par amour est source de grâce. Alors, obéir librement, non pas comme quelqu'un qui n'est pas capable de dire oui ou non, mais donc je suis capable de... j'ai ma personnalité, mon identité, mais par amour, je choisis d'obéir, hein, comme le Christ m'en a donné l'exemple. Hein. Et donc ce choix d'obéissance, hein, parfois une obéissance humaine, mais pour Dieu, par amour de Dieu, hein, c'est une obéissance à Dieu qui est source de grâce. Hein. Oui, donc il y a différentes formes d'obéissance qu'on est appelé à vivre, mais ce que je voudrais parler, c'est d'une surtout, là, je n'ai pas beaucoup insisté là-dessus, il y a une forme d'obéissance à laquelle on ne pense pas souvent, mais dont je vais dire quelques mots qui me paraît très importante. C'est ce que j'appelle... Oui, il y a une obéissance qui est plus liée au mystère du Christ. L'obéissance à la parole, à l'Église. Bon. Et l'obéissance qui est liée au Saint-Esprit. C'est l'obéissance intérieure aux motions de l'Esprit. J'en parlais un petit peu ce matin. Quand l'Esprit me pousse à telle ou telle décision, eh bien, lui obéir. Et c'est source de joie aussi. Bon. Mais il y a aussi une troisième forme d'obéissance qui est plus liée à la personne du Père. Le Père dans sa providence qui conduit toutes choses, c'est une obéissance. Alors le mot est un peu choquant, mais je vais expliquer ce que je veux dire. C'est obéir aux événements de l'existence, et autrement dit accepter avec confiance. C'est une forme d'obéissance, parce que souvent on est conduit à faire des choses qu'on n'aurait pas voulu faire. Jésus dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture, tu allais où tu voulais. Maintenant, quand tu seras vieux, un autre te mettra ta ceinture et te conduira où tu ne voudrais pas aller. Oui. Bon, et c'est ce qui se passe dans la vie parfois. On est conduit où on ne voudrait pas aller. On est conduit vers la maladie, on est conduit vers certaines choses qu'a priori, on ne court pas après. Hein. Bon, ce qui est normal. Hein. Mais je dirais que là, il y a une certaine forme d'obéissance, de confiance, de foi, qui est très très importante. Oui. Alors, je dis pas que c'est facile à pratiquer, hein, mais je dirais accepter avec confiance les événements de l'existence, hein, tels que, eh bien, ils se présentent jour après jour, oui, dans ma vie. Il faut pas que ce soit une espèce de fatalisme, hein, ou bien une paresse. Hein, il s'agit pas de pas résoudre les problèmes. Hein, si j'ai une maladie, il faut que je me soigne, évidemment, que je vais voir le médecin. Mais il faut que j'accepte quand même la maladie. Et donc il ne s'agit pas d'être paresseux, de ne pas résoudre les problèmes, de ne pas faire ce qu'on peut faire pour améliorer les situations. Mais je dirais, il y a comme une espèce d'accueil, oui, de réceptivité. Oui, accepter les choses comme elles sont, hein, même si la vie me conduit sur des chemins qui ne sont pas forcément ceux que moi j'aurais imaginés. Et ça nous arrive à tous un jour ou l'autre. Oui, de plus être le maître de notre vie. Hein, on ne peut pas tout maîtriser, tout contrôler, tout planifier. Il y a des moments, bien, il faut se laisser conduire vers des chemins qui ne sont pas ceux qu'on a forcément désirés au départ. Oui, dans un abandon, une confiance. Oui, s'abandonner entre les mains de Dieu. C'est un peu ça, cette forme d'obéissance. Oui. Et je voudrais, vous voyez, je voudrais prendre un peu une image, hein, qui est pas très poétique, mais un peu pour m'expliquer. Vous voyez, et ça nous oblige un peu à nous poser une question profonde, vous voyez. Hein. Et dans les retraites, de temps en temps, il faut se poser un peu des questions de fond. Oui. Quelle est mon attitude de fond face à l'existence, face aux événements de la vie, hein. Oui, je vais prendre une image. Parfois, notre attitude, c'est un peu l'attitude suivante. On est comme quelqu'un qui a une grande assiette. Oui, il va à un dîner, un brunch, ou je sais pas quoi. On lui file une grande assiette avec plein de trucs déjà servis dans l'assiette. Alors, il y a des machins que j'aime beaucoup là-dedans, mais des trucs que j'aime pas du tout. J'aime pas les anchois ou les olives ou je sais pas quoi. Alors, c'est quoi la tentation? C'est qu'on va prendre son assiette, on va essayer de trouver dans le coin de la salle un pot de fleurs, et puis on va virer de l'assiette les machins qui nous plaisent pas. Puis les trucs qui nous plaisent, on va aller au contraire en remettre, parce que maintenant il y a de la place. Donc on peut faire ça avec une assiette, même si c'est pas très poli, probablement dans certains contextes, mais on peut pas faire ça avec l'existence, avec la vie. Oui, la prendre et puis vouloir enlever de l'assiette ce qui ne nous plaît pas et puis remettre dans l'assiette les trucs qui nous plaisent. On ne peut pas faire ça. Bon, je ne dis pas qu'on n'a pas le droit d'avoir des projets, qu'on n'a pas le droit de réaliser des choses qui nous paraissent belles et bonnes pour nous. Je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de soigner quand on est malade. Hein. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais je veux dire que quelque part, oui, il nous faut tout accepter. Oui, de ce que l'existence nous donne. Oui, parce que si je prends l'attitude que j'ai décrite, voilà, j'ai mon assiette, hein, c'est la vie. Et puis dans la vie, il y a des choses très belles, très agréables, des joies, du bonheur, du plaisir. Il y a aussi des choses plus douloureuses. Si je veux faire un tri dans l'assiette, hein, qu'est-ce que je vais prendre comme critère de décision, hein, pour garder ceci et rejeter cela? Sur quoi je vais me baser? Qui sait ce qui est bon pour lui? Savons-nous ce qui est bon pour nous? Parfois, il y a des choses qui nous paraissent très désirables. J'ai rêvé de ça, de cette nouvelle voiture. Oh là là, j'en ai rêvé pendant des mois, j'ai fait un crédit, un machin comme ça. Puis voilà que j'ai ma nouvelle voiture, et puis au bout de 3 tours de quartier, ben, je m'aperçois que c'est pas ma nouvelle voiture qui me rend heureux. Même si j'ai désiré pendant 10 ans que j'ai mis de côté, oui, pour payer le super machin truc. Puis parfois, au contraire, arrive dans ma vie un événement dont j'aurais jamais voulu, une épreuve, une maladie, et je m'aperçois que cet événement m'a fait grandir, qu'il a été bon pour moi. Bon, peut-être un peu douloureux pendant un certain temps, mais il m'a fait grandir. Hein, je suis devenu adulte. J'ai compris le sens profond de certaines choses grâce à cet événement. Moi, j'ai entendu encore il y a 3 jours une personne qui me disait « Je rends grâce à Dieu pour mon cancer. » Je rends grâce à Dieu pour mon cancer. Oui. Donc nous ne savons pas ce qui est bon pour nous. Hein, et donc il ne faut pas être comme des petits enfants capricieux, hein, qui veulent tout en prendre ce qui leur plaît puis rejeter de l'assiette ce qui ne leur plaît pas. Il faut tout accepter. Comme dit la petite Thérèse, je choisis tout. Oui, c'est un acte d'obéissance, qui n'est pas facile, mais qui est bénéfique. Parce que d'abord, ça nous donne la paix, ça rend la vie beaucoup plus simple. Oui, parce que quand on est dans la stratégie de l'assiette, c'est très compliqué, parce que un peu plus de ci, un peu plus de cela, qu'est-ce que j'enlève pas, la vie devient hyper compliquée. Oui, quand on est tout le temps à se méfier, à avoir peur, à calculer, à se protéger, la vie devient hyper compliquée. Quand on s'abandonne, qu'on accepte ce qui vient, eh bien la vie est beaucoup plus simple, hein, et beaucoup plus paisible. Vous voyez ? Mais donc cette forme d'obéissance, de soumission, hein, parce que ça veut dire qu'on accepte une autre sagesse que la nôtre, hein, qu'on accepte que notre vie soit gouvernée par une sagesse qui n'est plus la nôtre. Hein. Alors ça suppose beaucoup de foi, vous voyez, beaucoup d'abandon. À la base, c'est une question de foi, vous voyez là encore. C'est la foi qui est la base de tout, de toute façon. C'est une question de foi, de confiance en Dieu. Quand même si la vie parfois me déçoit, Et bien, si j'accepte ce qui se présente dans mon existence, eh bien, Dieu me conduira sur un chemin de croissance, voyez, et de vie. Voyez. Lorsque je vous dis là, on a beaucoup de mal à le comprendre aujourd'hui. On veut tout gouverner, tout planifier, hein, tout tenir en main selon nos idées à nous, hein, pas toujours très évangéliques. Hein. Mais ce chemin d'abandon, c'est un chemin de pauvreté aussi, vous voyez. C'est, accepter cette pauvreté de ne pas tout maîtriser, de ne pas faire que la vie soit toujours ce que je voudrais qu'elle soit. C'est une forme de pauvreté d'esprit, là aussi. Mais c'est extrêmement bénéfique, parce que Dieu nous conduit. Alors, on a des moments difficiles, il y a parfois des choses qu'on ne comprend pas, mais on expérimente que Dieu est fidèle et que Dieu tire un bien de toutes choses. Et on est gagnant, mais en fin de compte, on est gagnant. Celui qui accepte de perdre sa vie, la gagnera. Celui qui veut la gagner à tout prix, il la perdra. Mais là, on est en plein dans le cœur de l'Évangile, hein, qui est une parole exigeante, difficile, mais une parole salutaire, hein, et est tellement vraie. Voyez, on pourrait dire beaucoup d'autres choses sur l'obéissance, mais je crois que cette forme d'obéissance aussi est une manière d'accueillir le Saint-Esprit. Parce que si j'accueille les événements de ma vie, j'accueille la grâce nécessaire pour les porter. Si je les refuse, ils deviennent trop lourds. Mais ce qui est trop lourd, ce n'est pas la souffrance, c'est la souffrance qu'on refuse. Celle qu'on accepte, elle est moins lourde. Et on a la grâce pour la porter. Oui, donc accueillant les événements de la vie, j'accueille aussi la grâce qui me permet de les porter et puis d'en tirer quelque chose de positif. Enfin, c'est Dieu qui le fait, hein. Bon, avec ma collaboration aussi. Donc c'est une forme de soumission qui est une ouverture. Oui, c'est une réceptivité, c'est accepter le réel, vous voyez. Et acceptant le réel, j'accepte Dieu, présent dans le réel. Parce que Dieu est présent partout. Hein, même dans la souffrance, même dans mes échecs, hein, Dieu est présent partout. Hein, et acceptant la vie telle qu'elle se déroule, j'accepte la présence et le don de Dieu et la grâce. Hein, et je suis ouvert à la grâce qui m'est nécessaire pour le chemin que j'ai à vivre. Je voudrais vous lire un petit passage là, puis je vais m'arrêter après. Un petit texte de Etty Hillesum, enfin, vous la connaissez peut-être, hein, je la cite dans certains de mes livres. Vous savez, c'est une jeune femme juive qui est morte à Auschwitz. Et qui a fait un très beau chemin. C'est une fille qui était très très compliquée au niveau affectif. Elle avait une vie qui n'était pas très en ordre, loin de là. Mais elle a fait tout un cheminement très beau. Son journal a été publié, où elle a découvert peu à peu la prière, elle a découvert Dieu, l'abandon à la providence. Puis ce qui est très très beau dans ce témoignage, c'est que donc elle a vécu à Amsterdam pendant la dernière guerre mondiale, donc au moment où les juifs, où les nazis donc ont commencé à persécuter les juifs et puis à les envoyer en camp, tout ça. Et ce qui est très très beau dans ce témoignage, c'est que plus le monde extérieur devient difficile, hein, plus elle perd de liberté extérieure, bien plus elle découvre une liberté intérieure. Elle découvre un bonheur en elle, oui, c'est bouleversant comme témoignage. Parce que plus le monde extérieur devient pesant et difficile et opprimant, plus elle découvre intérieurement un espace de vie, de liberté, de joie. Vous voyez, bon, avec sa souffrance aussi, hein, mais c'est une très très belle expérience. Donc voilà ce qu'elle dit, hein, un petit passage de son journal. C'est une expérience de plus en plus forte chez moi ces derniers temps. Dans mes actions et mes sensations quotidiennes les plus infimes, se glisse un soupçon d'éternité. Elle découvre un peu comme une présence du royaume en toute chose. Je ne suis pas la seule à être fatiguée, malade, triste ou angoissée. Je le suis à l'unisson de millions d'autres à travers les siècles. Tout cela, c'est la vie. Hein, que de temps en temps, bien, des choses douloureuses, tout ça. Tout ça, c'est la vie. La vie est belle et pleine de sens dans son absurdité. Oui, la vraie vie dont on rêve, enfin, la vie dont on rêve, c'est pas la vie véritable, c'est pas la vie la plus belle. La vie véritable et la vie la plus belle, c'est la vie réelle, la nôtre, hein, qu'il faut accepter et accueillir, hein, telle qu'elle est. Oui, la vie est belle et pleine de sens. Alors, il continue. La vie est belle et pleine de sens dans son absurdité, pour peu que l'on sache y ménager une place pour tout et la porter tout entière dans son unité. Hein, dès qu'on refuse ou qu'on veut éliminer certains éléments, hein, c'est ce que je disais à propos de l'assiette, bon, dès que l'on refuse ou que l'on veut éliminer certains éléments, dès que l'on suit son bon plaisir ou son caprice pour admettre tel aspect de la vie et en rejeter tel autre, alors la vie en effet devient absurde. Dès lors que l'ensemble est perdu, tout devient arbitraire. Mais par contre, si on accueille l'ensemble, eh bien tout prend sens. Voyez. Je crois qu'il y a une vérité profonde dans ces paroles. Oui, c'est seulement un petit... Bon, c'est pas ce que vous dit la pub à la télé, hein. C'est exactement le contraire. Mais bon, moi je suis payé pour prêcher l'évangile et pas pour prêcher l'esprit du monde. Alors je sais pas si je mérite mon salaire, mais ce qui est très beau, c'est que quand on vit ça, eh bien on s'aperçoit que ça marche. On me dit que Dieu est fidèle et qu'on trouve la paix. Alors ça veut pas dire que tout est rose, hein. On a des moments douloureux, on a des moments d'angoisse, on a des moments où on râle un peu parce qu'on est des êtres humains, et puis bon, de toute façon... Bon. Mais je dirais que quand on vit cette confiance, cette obéissance à l'existence, eh bien, on s'aperçoit que Dieu est sage, voyez, et qu'il tire un bien de tout. Et que même les choses qui nous paraissaient les plus négatives peuvent devenir une grâce pour nous. Il nous faut devenir adultes et apprendre qu'est-ce que c'est que aimer vraiment, qu'est-ce que c'est que le sens profond de l'existence, voyez. Au lieu de rester des adolescents, et on est une société qui fabrique des adolescents aujourd'hui. Hein. Et même pire, je veux dire, qui maintient les gens dans un infantilisme invraisemblable. On est tous des gamins capricieux à râler dès que ça va mal, à réclamer je sais pas quoi, à revendiquer nos droits du matin au soir, vous voyez, des droits qui n'ont aucun sens la plupart du temps. Vous voyez. On est vraiment dans un infantilisme aujourd'hui, hein, invraisemblable. Et il faut devenir adulte dans le Christ. Ouais, c'est ça le chemin pour devenir adulte. Oui, être des petits enfants oui, qui font confiance. Oui, je crois tout, j'espère tout de Dieu. Et je fais confiance en tout. Oui. Alors, bon, je ne dis pas que c'est facile à pratiquer. Moi, le premier, je parle, mais je ne le pratique pas autant que je voudrais le pratiquer. Mais quand même, j'essaye. Hein, je crois que c'est le chemin de l'Évangile. Oui, un abandon confiant entre les mains de Dieu, quoi qu'il arrive. Oui. Bon, et donc vous voyez ces attitudes que j'évoquais cet après-midi, hein, l'humilité, l'acceptation de sa petitesse, l'acceptation des événements, tout ça, c'est une ouverture d'accueil et de réceptivité hein, qui fait que, de manière mystérieuse, eh bien, mais réelle, la grâce de Dieu nous est donnée. Hein, et Dieu nous soutient, nous porte, vous voyez. Alors, on ne le sent pas toujours, mais il est là, et puis on voit bien hein, sa fidélité dans le fil des années. Hein, et c'est très très beau, parce que ça pousse à l'action de grâce, et puis à nous émerveiller devant la sagesse de Dieu, hein, qui est toute miséricorde. Je vais prendre simplement un autre point, mais ça sera rapide parce que de toute façon c'est basé sur les choses que j'ai déjà dites. C'est un peu une conséquence hein, de ce que je viens de dire de toute façon. Donc le point suivant, c'est la paix. Hein, c'est la pratique de la paix intérieure. Alors on ne peut pas toujours être dans une paix parfaite, hein, ça c'est clair, hein, parce qu'il y a des combats dans la vie et tout ça, mais je dirais que autant qu'il dépend de nous, rester paisible. Oui, dans les difficultés et les problèmes. Bon, c'est une conséquence de ce que je viens de dire avant, hein, de toute façon, c'est clair. Oui, autant qu'il dépend de nous, ne pas nous inquiéter, ne pas nous troubler, oui, ne pas nous décourager quand les choses ne sont pas tout à fait ce qu'on aurait voulu qu'elles soient, mais accepter paisiblement. Oui, parce qu'il y a une loi spirituelle. Qui est importante, c'est que plus notre cœur est paisible, plus nous sommes ouverts au travail de Dieu. C'est un peu l'image que je prends dans mon bouquin, c'est l'image d'un lac. Et si ce lac est bien paisible, il reflète le soleil parfaitement. Si le lac est agité, il ne reflète plus les rayons du soleil. Donc il y a un peu une analogie avec la vie spirituelle. Oui, si mon cœur est paisible, non pas simplement d'une tranquillité psychologique comme ça, bon, qu'on peut avoir, mais si mon cœur est abandonné, voyez, confiant, comme dit le psaume, je tiens mon âme en paix et silence. Oui. Si dans la difficulté, au lieu de râler, de me décourager, de m'inquiéter, j'essaye de faire ce petit effort. Bon, parfois, c'est un grand effort. Hein. Je garde mon âme en paix et silence. Eh bien, plus je garde mon âme en paix et silence, plus la grâce m'est donnée. Au contraire, quand je me précipite, que je m'inquiète, que je me trouble pour mille choses, eh bien, quelque part, je me coupe aussi de la grâce de Dieu. Enfin, on peut toujours, je ne dis pas ça pour qu'on culpabilise, hein, parce que je ne dis pas que c'est facile. Et seulement, c'est une chose importante à remarquer, vous voyez, c'est que plus nous essayons de nous tenir en paix dans les événements de l'existence, et bien plus nous sommes réceptifs. Hein, et plus nous avons un bon discernement, vous voyez. Parce que quand on n'est pas dans la paix, on n'a pas un bon discernement hein, sur les choix, les décisions, l'importance des choses. Oui, quand on est agité, troublé, inquiet, on grossit tout. Et donc on ne voit pas les choses dans leur vérité profonde. Il n'y a que dans la paix que notre regard est, que nous avons un bon discernement sur les situations. Saint Ignace le dit, hein, quand vous n'êtes pas en paix, ne changez pas vos décisions importantes. Attendez que la paix revienne, sinon vous allez faire des bêtises. On va agir par précipitation, par peur, et on fait des bêtises, oui. Donc les efforts que nous faisons pour garder notre cœur paisible sont importants parce que c'est une manière d'être ouvert au travail de l'esprit et d'être sûr de ne pas prendre de mauvaises décisions. Voyez. Alors, là encore, on fait ce qu'on peut. Hein. Parfois, on peut rester facilement paisible malgré telle ou telle difficulté. Parfois, c'est beaucoup plus difficile. Dieu ne nous demande pas de réussir, il nous demande quand même, mais d'aller dans ce sens-là quand même. Oui. Et là encore, c'est un acte de foi. Oui. Pourquoi est-ce que je peux rester paisible malgré le problème? Parce que je crois que tout est dans la main de Dieu. C'est un acte de foi. Oui, qui fonde cette attitude de paix. Mais elle est importante. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et si nous voulons être artisans de paix pour les autres, il faut être soi-même en paix. Oui, donc oui, une conclusion de ce que je viens de dire par rapport à la paix, c'est que parfois notre stratégie dans la vie est la suivante. Vous voyez, j'ai un problème qui m'a fait perdre la paix. Hein. Telle ou telle difficulté, une mauvaise nouvelle, épreuve. Bon. Alors souvent on raisonne comme ça. J'ai perdu ma paix à cause de telle ou telle situation, donc il faut que je résolve le problème, et après ça, je vais retrouver la paix. C'est souvent comme ça qu'on raisonne. Alors est-ce que c'est une bonne manière de raisonner? Non, évidemment. Elle n'est pas si évident que ça, parce que, vous voyez, parce que, est-ce que je suis sûr de résoudre le problème d'abord? Et puis si j'attends d'avoir résolu tous les problèmes de ma vie pour être en paix, je ne le serai jamais. Ça c'est clair. Donc il faut renverser un petit peu la stratégie. Oui, j'ai un problème qui m'a fait perdre la paix. L'urgence, ce n'est pas de résoudre le problème, mais c'est de retrouver la paix. Mais de retrouver un minimum de paix. Et une fois que j'ai retrouvé un minimum de paix, alors j'affronte le problème. Et si je peux le résoudre, je le résous. Et si je ne peux pas le résoudre, je ne le résous pas. Dieu ne m'a jamais demandé de résoudre tous les problèmes du monde. Il faut parfois vivre avec des problèmes non résolus. Il faut vivre avec. Oui. Donc là, au niveau de la stratégie dans le combat spirituel, oui, c'est important. Oui. L'urgence, c'est pas de tout résoudre. L'urgence, c'est de retrouver la confiance, de retrouver la paix. Comment? Grâce à la prière, grâce à l'écoute de la parole de Dieu, grâce à des actes de foi. Parfois, en parlant avec quelqu'un, ça peut être nécessaire pour... un petit peu ne pas porter son fardeau tout seul. Oui, mais donc l'urgence, c'est de retrouver la paix. Et là, on voit ce qu'on fait. Donc, c'est parfois des choses qu'il faut savoir se dire, voyez. Quand on est trop agité, et puis qu'on commence à s'agiter, à se préoccuper excessivement, à être troublé, voyez. Non, il faut retrouver un minimum de confiance et de foi et de paix. Et après, on voit ce qu'on peut faire. Donc, c'est important parce que c'est pas toujours ce que nous faisons spontanément, et donc parfois il faut un petit peu rectifier le tir dans notre manière de nous conduire face aux situations de l'existence.